Et ces livres destinés à la piété, saint Jérôme, au IVe siècle, va les nommer apocryphoi, c'est-à-dire inauthentique en grec, apocryphe. Et c'est en 360, au synode de Laodicée, donc quelques années, voyez, avant la liste que nous donne Athanase, que le terme canon, hein, donc le roseau qui sert de mesure, de règle, qui signifiait jusqu'alors la règle de foi, en fait, hein, eh bien, est utilisé pour désigner la liste des livres normatifs de l'Église universelle. Parce qu'alors, le canon, la mesure, la règle, c'était la règle de foi qui était enseignée aux catéchumènes et que, à partir du kérigme, etc. Et après, par extension, ça devient la liste des livres qui servent justement à l'enseignement des catéchumènes et qui sont lus dans le culte auquel ils participent. Voyez. Alors, il y a donc une distinction entre les livres canoniques et les livres apocryphes. Les uns sont considérés comme authentiques et donc normatifs, et les autres non. Alors, saint Augustin, ce livre a une enquête minutieuse auprès des églises les plus anciennes et les plus prestigieuses pour relever leurs usages scripturaires. Et les synodes d'Hippone en 393, puis de Carthage en 397 et en 419, vont aboutir à un nouveau canon qui compte 46 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau, consacrant ainsi l'abandon de la distinction de saint Jérôme entre canonique et apocryphe. Donc ces livres apocryphes de l'Ancien Testament vont être considérés comme canoniques parce que dans les églises d'Occident, c'est-à-dire essentiellement d'Afrique du Nord, de Rome, eh bien, ces livres étaient considérés comme, acceptables. Oui. Et donc, c'est l'usage latin qui a prévalu jusqu'à nos jours, donc, l'usage de saint Augustin. Il ne sera remis en cause qu'au moment de la Réforme, où Luther revient à la distinction de saint Jérôme. Il exclut donc les livres grecs de l'Ancien Testament et il écarte, évidemment, du Nouveau Testament des textes qui avaient déjà été suspectés dans les premières collections canoniques, mais qui gênent par trop son antisacramentalisme. Alors, l'Épître aux Hébreux, évidemment, qui insiste trop sur le sacerdoce du Christ. Les lettres de saint Jacques, la lettre de saint Jacques qui dit justement que la foi sont les œuvres, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, or, saint, j'allais dire saint, Luther, saint Martin. Donc, Martin Luther, lui, avait imaginé tout le contraire. Donc, il est très content de découvrir que qu'au 1er siècle, on avait des doutes, au 2e siècle, on avait des doutes sur la canonicité de la lettre de saint Jacques. Alors, il s'empresse de l'éjecter du canon. Et puis, également la lettre de Jude, qui trouve que c'est un doublet de la deuxième de Pierre, et puis l'Apocalypse aussi, c'est aussi un peu trop sacerdotal. Le Concile de Trente, dans sa deuxième session, si je ne me trompe, non, quatrième session, en 1546, va promulguer un décret dont vous trouvez le texte dans la collection, vous savez, je vous avais parlé du Danzinger, oui, c'est ça. Vous avez même montré comment c'était. Hein. Donc on a 5 numéros du Danzinger qui reprend la quatrième session et qui réaffirme la position de saint Augustin contre saint Jérôme et contre Luther. Les livres apocryphes seront aussi appelés deutérocanoniques, comme s'ils appartenaient à un canon de second ordre. Mais pour nous, pour l'Église catholique, c'est-à-dire après le Concile de Trente et repris dans Vatican I et Vatican II, il ne fait pas de doute que ces textes appartiennent à l'unique canon et qui sont normatifs pour la foi. Par exemple, le sacrement de l'onction, eh bien, il trouve son fondement dans la lettre de Saint Jacques. Et lettre qui, par ailleurs, donc, je vous dis, équilibre la position paulinienne vis-à-vis de la primauté de la foi dans la justification, en soulignant que les œuvres, que la foi sans les œuvres, est, enfin, voilà, est une foi morte. Alors, un petit mot de on pourrait dire du Zondervweg, là, du chemin particulier des églises d'Orient, l'Orient chrétien, curieusement, ne connaît pas de canon déterminé. Par exemple, les Grecs orthodoxes ajoutent à l'Ancien Testament deux apocryphes, le deuxième livre d'Esdras et le troisième livre des Maccabées, tandis que les Éthiopiens incorporent à l'Ancien Testament le livre des Jubilés et le livre d'Énoch, et au Nouveau Testament, figurez-vous, la première lettre de Saint Clément de Rome.
Ah ouais?
Quel papisme, hein, pour des gens qui sont coupés de Rome depuis toujours. Et oui, il y a Prima Clementis, elle fait partie de leur Nouveau Testament. Et souvent, les livres en usage dans le monde orthodoxe comportent des ajouts, des comment dire, vous voyez, parfois aussi, quand on regarde la Sixto Clémentine, il y a des petits ajouts, des petits commentaires, certainement de copieurs. Vous savez, quand on lit le énième dimanche après Pâques, à un moment, on lit la première de Saint Jean, où il dit « Ils sont trois à témoigner, l'eau, l'esprit et le sang ». Et alors, il y a un petit commentaire qui dit « Qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Donc ça, dans les éditions modernes de la Bible, on ne l'a pas. En fait, c'est visiblement une sorte d'ajout certainement d'un copiste très ancien. Mais la preuve, ça existe à l'époque de Saint Jérôme, etc. Mais donc il y a des petits ajouts comme ça dans certains livres de la Bible. Alors comme nous, on a traduit en latin les textes, donc on était obligé de prendre un texte grec normatif. Les orientaux lisant le grec, finalement, leur version grecque se répondait plus facilement. Regardez par exemple à l'époque hellénistique pour l'Ancien Testament, il y avait au moins 4 ou 5 versions de la Bible juive qui circulaient. Et puis les uns prenaient cette version, les autres. Nous, on a pris la Septante, par exemple. Enfin, les chrétiens ont pris la Septante. Mais tout juif connaissant le grec prenait la version qu'il avait, en quelque sorte. Et après, quand on les massorètes, enfin avant les massorètes, quand on est revenu à une Bible hébraïque, finalement, on était obligé de faire des choix aussi. C'est là aussi ils ont envoyé promener les traductions grecques. Alors, petit C, on terminera par ça. La structure de la Bible catholique. Donc, il suffit de se reporter à la table des matières d'une de nos Bibles courantes pour voir quelle est la structure adoptée. Donc, l'Ancien Testament est divisé normalement en quatre sections. Le Pentateuque, donc, qui correspond à la Torah des Juifs, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ensuite, on a ce que nous appelons les livres historiques, qui prennent la suite de l'histoire, en quelque sorte, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, puis après l'exil, Esdras, Néhémie, après on rajoute Tobie, Judith, Esther, alors c'est plus ou moins historique, et puis 1 et 2 Maccabée, jusqu'ici sont les révoltes à l'époque des rois hellénistiques. Et là-dedans, vous avez ce que les juifs appellent les prophètes antérieurs, hein, en partie. Après Donc les livres historiques, on a les livres poétiques et sapientiaux, Job, Psaume, Proverbe, Coëlette, c'est l'Ecclésiaste, hein, celui vanité, tout est vanité, Cantique, Sagesse et Siracide ou Ecclésiastique, donc qui seraient les autres écrits dans le langage des Juifs, dans la Bible juive, encore qu'ils n'aient pas tout ça. Et puis, quatrième partie, qui est en fait pour les Juifs la deuxième, ce sont les livres prophétiques, Isaïe, Jérémie, Lamentation, les Lamentations de Jérémie, hein, celles qu'on chante pendant la Semaine Sainte, Baruch, qui était le secrétaire de Jérémie normalement, Ézéchiel, Daniel, et puis les 12 petits prophètes, comme on dit. Et le Nouveau Testament, lui, est plus disparate. Il comprend d'abord les 4 évangiles, puis les actes, ensuite les lettres, divisées en corpus paulinien, auquel on raccroche l'épître aux Hébreux quand même, et puis les lettres dites catholiques, où on met toutes les autres, c'est-à-dire Jacques, Pierre et Jean, et enfin pour que et Jude, oui, faut pas l'oublier, et enfin l'Apocalypse. Alors l'ordre choisi place Saint Jean-Baptiste à la charnière des deux testaments en fait, parce que l'Ancien se termine avec cet oracle de Malachie. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète. Avant que n'arrive le jour de Yahvé, grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'Anathème. Malachie ou Malachie, je sais pas comment on dit, 3, 23-24. Et le Nouveau Testament s'ouvre dans les quatre évangiles par le ministère prophétique du précurseur, qui est le nouvel Élie attendu. Et le renversement de perspective signifié par saint Paul est également visible au terme de la Bible. Alors que la Bible juive, vous vous souvenez, s'arrêtait sur l'appel à monter vers Jérusalem, puisque le dernier livre dans la Bible juive, c'est le deuxième chronique, et qui se termine par l'édit de Cyrus qui permet aux Juifs de monter à Jérusalem. Eh bien, la Bible chrétienne se clôt avec la vision de la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Donc, vous voyez, deux chroniques, c'est on monte vers la Jérusalem terrestre, et la fin de la Bible chrétienne, c'est la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Avec ses paroles prophétiques, le garant de ces révélations l'affirme, « Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Apocalypse 22, 20, 21. Donc, à l'effort vers Dieu, on grimpe le mont Sion, la montagne, hein, et quand on va en Terre Sainte et qu'il fait chaud, on s'aperçoit que ça demande un effort, eh bien, correspond la venue de Jésus, et donc à la loi, avec toute sa difficulté, correspond la grâce avec toute sa facilité, si vous voulez. Je trouve que c'est même dans la manière dont les livres sont ordonnés, et on a vraiment une signification théologique profonde et spirituelle qui nous est donnée. Donc voilà pour cette première section, la constitution de la Bible. Je m'arrête là.
Monsieur l'abbé, s'il vous plaît, quelle Bible vous pourriez nous conseiller ?
Alors, c'est toujours compliqué parce que il y a des traductions qui sont élégantes. Par exemple, la traduction de Crampon, de Chanin Crampon, elle est plutôt élégante. La Bible de Jérusalem, elle est plutôt bien écrite aussi. C'est le bon français des années 50. Vous avez des Bibles un peu plus rugueuses, plus proches de l'original, comme celle du chanoine Hostie. Voilà. Et puis, les moines de Maritsou qui ont aussi. Alors, en plus, vous avez des Bibles qui sont traduites par des gens différents, même s'il y a des comités de coordination. Mais finalement, les livres bibliques sont aussi écrits par des gens différents. Et parfois, vous avez un unique traducteur, comme par exemple le chanoine Hostie pour la Bible qui porte son nom. Et puis, qu'est-ce que vous avez encore? Alors, vous avez des Bibles un peu fantaisistes, comme celle de Ushuraki, là, alors qui a voulu vraiment garder la rugosité propre au langage hébreu. Et donc, d'une certaine manière, c'est une translittération de l'hébreu. Alors, ce qui montre aussi... enfin, voilà, donc c'est un peu comme ça. Qu'est-ce que vous avez encore? Oui, tout à fait. Il y a une Bible... Alors, si on remonte plus avant, on a des... Il y a la traduction de Fillon, est assez élégante, c'est un Sulpicien. Alors, après, on a des traductions, par exemple, de Le Maître de Sacy, qui est une traduction parfois interprétative, hein, avec des petits commentaires. Enfin, précise un peu pour que le lecteur... voilà. Et puis, vous avez des traductions... vous avez aussi les traductions latines. La Bible, la Vulgate de Saint Jérôme. Alors, aujourd'hui, corrigé par Sixte Quint, qui a fait, paraît-il, un certain nombre d'erreurs, et Clément VIII qui s'est empressé de les réparer, donc la Sixto-Clémentine, donc, qui est la Bible du Concile de Trente. Et aujourd'hui, les moines du monastère Saint Jérôme l'Aventin, non, c'est sur l'Aventin, on produit une traduction latine à partir, disons, des manuscrits qu'on considère comme étant les plus sûrs aujourd'hui. Vous savez, avec toutes les familles de manuscrits, etc. Donc on a une base de textes grec ou hébreu qui sont considérés comme étant les plus sûrs du point de vue de la transmission littérale, de la transmission... et qui sont traduits en latin, dans un latin correct, quoi. Voilà. La Néo-Vulgate, ouais, qui date de 1986. Moi, je l'ai lu intégralement sur la terrasse du séminaire à Rome, là. Je me promenais en lisant la Bible. Mais, elle est... Alors, elle se lit bien. Alors, sinon, qu'est-ce que vous avez... On peut toujours s'amuser à lire aussi des Bibles étrangères. Moi, j'ai lu aussi la Bible en allemand, en anglais. En italien, j'avoue, je n'ai pas lu en entier. Et puis... il y a aussi la traduction dite œcuménique de la Bible. Alors, donc ça, c'était très à la mode dans les années 70. Et alors...
Moi, je n'ai que le Vulgate romain.
Voilà. Alors, là-dedans, tout le monde a essayé de faire plaisir aux autres. Donc... Alors, on a par exemple des termes qui seraient très catholiques, qui ont été un peu adoucis pour ne pas gêner les protestants. Et en fait, globalement, à une certaine période, plus personne ne lisait la taupe, sauf les catholiques. Parce qu'il faut toujours faire plaisir aux autres, et les autres se fichaient pas mal de nous faire plaisir à nous. Et alors, vous avez, oui, aussi la Bible en langage, populaire, oui, c'est ça. Donc, des traductions, la Bible du peuple de Dieu, je crois, c'est ça, qui a été une traduction faite par un des prêtres pour une Bible en langage commun. C'est vrai, quand vous lisez la Bible de Jérusalem des années 50-60, c'est quand même du français élégant. Hein. C'est... Alors que saint Augustin, quand il lisait la Bible de son temps, il était dégoûté. Oui, était dégoûté par les solécismes, les erreurs de grammaire, la pauvreté du vocabulaire, etc. Donc c'est ça qui longtemps l'a retenu. Oui. Et jusqu'au moment où il a compris que l'incarnation du Verbe, du Logos, du Dieu éternel, dans la pauvreté d'une humanité toute limitée, elle avait comme parallèle l'incarnation de la parole éternelle dans des paroles humaines pauvres. Et que du coup, la pauvreté du langage biblique était une sorte de vérification, d'une certaine manière, de l'incarnation. C'était le parallèle de l'incarnation. Donc, ces Bibles, si vous voulez, dans un langage un peu grossier, enfin pas grossier, mais disons un langage quelconque, d'une certaine manière, elles sont une manifestation de l'incarnation et ce que pouvait ressentir peut-être un lettré à l'époque antique. Ah, vous savez que par exemple, Tolkien ne supportait pas la traduction en anglais courant conciliaire. Après le Concile de Vatican II, les Anglais se sont mis à la messe en anglais et la traduction était une traduction plutôt en langage simple. Hein. On devait se dire qui va à la messe en Angleterre? Les dockers irlandais, donc il faut se mettre à leur niveau. Et alors, les lettrés d'Oxford ont dû ressentir exactement ce que saint Augustin avait perçu, avait ressenti. Et alors, du coup, oui, voilà, les Anglais sont habitués à la King James version. Et alors, qui est très élégante. D'ailleurs, quand vous lisez ça, vous vous demandez si vous savez encore l'anglais du reste, parce qu'il y a un mot sur deux que vous ne comprenez pas. Donc, c'est loin d'être un anglais facile. Hein,
l'anglais du jeu est très difficile.
KJV, là. Et du coup, alors, mais par contre, c'est l'anglais de toute l'aristocratie anglaise. Et donc, c'est évidemment, ça fait un choc quand on est passé à l'anglais assez simple de la messe. Du coup, Tolkien allait à la messe en latin. Il n'a pas quitté la messe en latin. Enfin, en particulier à cause et parce qu'il trouvait que non seulement la Bible était mal traduite, mais la liturgie était mal traduite aussi. Elle était traduite de. Et voilà, que les textes, les oraisons, tout ça, et le canon, tout ça, c'était mal, c'était du mode de l'anglais vraiment très quelconque. Alors du coup, il avait de la chance parce que un de ses fils était oratorien à Oxford, et donc il lui disait la messe dans le rite qu'il voulait, quoi.
Sans
motu proprio. Sans motu proprio. Vous savez, le fatum motu proprio, Agatha Christie, oui.
C'était quoi, ça?
Agatha
Christie. C'est Paul VI qui avait permis aux vieux prêtres anglais de dire la messe.
De dire la messe traditionnelle, et qui a été à l'origine de ça? Enfin, bon, un certain nombre d'anglais catholiques.
Un comité.
Voilà, un comité, et à la tête duquel il y avait Agatha Christie.
Qui n'était pas catholique.
Mais qui, justement, pour les belles lettres, par souci des belles lettres... voilà, c'est un peu comme si, je ne sais pas, Jacqueline de Romilly ou...
Jacqueline David.
Oui, voilà, avait dit, non, on ne va quand même pas passer au français qu'on a dans notre liturgie d'aujourd'hui. Donc, c'était ce qu'on appelait l'indulte Agatha Christie, qui a permis aux Anglais, premiers avant tous les autres, d'avoir la messe traditionnelle. Voilà.
Alors, pas de.
La semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, pas de cours parce que je serai à Vigrapsol. Ouais. Je serai dans la neige.
Comment la semaine prochaine?
Non, pas cours, ouais.